on a continué d'habiter le présent avec vous.
Non, mais c'est vu que c'est moi qui démarre, donc c'est pas simple de commencer un propos comme ça, parce que ça vient un peu rompre la dynamique de l'échange qu'il y avait là, mais bon. Donc l'idée c'était de suivre la proposition du jour, donc autour de comment faire terrain de recherche dans par et contre l'institution. Donc moi j'ai prévu de vous présenter un peu comment s'est amorcé mon terrain. Ça c'est aussi une manière de rebondir sur l'intervention qu'a eu David Jamar en septembre, donc sur la première édition de ce séminaire. C'est son intervention qui pour moi avait ouvert plein de pistes. Donc vous présenter un peu comment s'est amorcé mon terrain et après partir de l'exemple d'une expérimentation. Pour questionner peut-être la question du rapport à l'institution. Donc pour vous raconter comment j'en suis venu au doctorat, donc moi j'ai été éducateur spécialisé pendant 15 ans, j'étais aussi un peu éducateur de rue. Et puis donc quand j'étais éduc, j'ai repris mes études, j'ai fait donc un master. Et puis, pendant l'année du Master 2, j'ai eu très peur de me retrouver éducateur avec un master en poche et de rien pouvoir en faire. Et puis, je me suis rendu compte, ça rejoint un peu ce que tu disais aussi, Claude, tout à l'heure, je me suis rendu compte que le fait d'être dans une démarche de recherche, dans le cadre du mémoire, ça me donnait des possibilités de rencontres qui étaient différentes de celles que j'avais quand j'étais éducateur de rue. Ça ouvrait des choses que... qui n'était pas à ma disposition quand j'étais éducateur. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a donné l'envie de me lancer dans le doctorat, et aussi, ça fait écho aussi à ce que disait David Jamar quand il disait que les sciences sociales peuvent être aussi une des modalités d'action sociale ou d'intervention. Et du coup, moi, j'ai vraiment vécu ça à ce moment-là. Donc, j'ai fait le projet de partir en doctorat, très soutenu par Pascal, qui était mon directeur de mémoire aussi à ce moment-là, pour m'autoriser à faire ce projet d'être dans une activité de recherche. Alors pour moi, du coup, ça signifiait un changement d'activité et d'identité professionnelle, donc occuper la fonction d'éducateur spécialisé, me construire une activité de recherche, une identité de chercheur. Et ça a fonctionné, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que, y compris, c'est à partir du moment où moi j'ai abandonné mes fonctions d'éducateur de rue, d'éducateur spécialisé, qu'on a pu me reconnaître dans cette activité-là, et que j'ai pu être identifié comme ça par les autres, et ce qui m'a ouvert du coup la possibilité de mettre en place une cible. Parce que du coup, il fallait un nouveau lieu d'inscription professionnelle et aussi un financement. Donc j'avais connaissance du dispositif CIRC, donc je suis allé à la rencontre d'une association que je connaissais par ailleurs, puisque j'avais été en lien avec cette association quand j'étais éduc, et en proposant de me salarier pour produire une recherche dans le cadre de ces conventions CIRC. Donc je vous raconterai un peu plus après. Alors, c'est toujours un peu compliqué pour parler de mon terrain et de mon sujet de recherche. Comme on disait tout à l'heure, c'est une espèce d'impression de quelque chose de complexe et qui est difficile à présenter. Alors, au début, quand les gens me demandaient mon sujet de recherche, je disais que je travaillais sur la parentalité, sur les politiques publiques de parentalité. Et sur les dispositifs de coproduction, de co-construction dans le cadre de ces politiques publiques de parentalité. Et souvent, les gens se mettaient à me parler de leurs enfants et me demandaient des conseils d'éducation. J'avais beaucoup de mal à leur faire comprendre que, en fait, j'étais pas du tout expert de la parentalité, que je n'avais pas grand-chose à la parentalité, que c'était même pas ça qui m'intéressait. Parce que dans ma recherche, j'essaye même pas de voir comment les acteurs produisent du soutien à la parentalité. Donc du coup, aujourd'hui, j'essaie de changer ma présentation. Donc je dis plus que je travaille sur les conditions de mise en œuvre de dispositifs d'agencement de configuration qui permettent une confrontation des expertises des différents types d'acteurs pour une mise en débat et pour la production du problème public. En général, quand je dis ça, les gens sont... C'est peut-être un peu dommage, mais... Ouais, c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Et, alors, pourquoi les politiques publiques de parentalité? C'est parce que, quand j'étais éducateur de rue, je participais à un réseau parentalité sur le territoire sur lequel j'intervenis. Donc, il y a un réseau parentalité qui s'est mis en place au début des politiques publiques de parentalité dans les années 2000. Et la première chose qu'on voit quand on est sur un réseau parentalité, c'est que il n'y a pas de parents. Voilà, c'est quelque chose qui a commencé à m'étonner, à m'intriguer. Les collègues, donc essentiellement uniquement des professionnels du travail social, les collègues qui étaient présents sur ces réseaux, qui n'avaient pas l'air d'être trop étonnés de cette situation. En même temps, quand même un peu tiraillé. Donc, je suis allé chercher dans les textes, et je me suis dans les textes qui sont à l'origine de ces politiques publiques. Je me suis rendu compte que c'était des textes qui préconisaient la création d'espaces de rencontre entre parents et professionnels et même élus. Donc ce qu'on appelle ces réseaux parentalité, des fois on dit REAP, réseau d'écoute, d'appui, d'accompagnement des parents. Alors même si on est dans ces textes, toujours dans l'idée que c'est plutôt pour les parents immigrés ou issus d'immigration, et c'est plutôt pour les parents en situation de précarité, qu'on veut produire ces dispositifs-là. Donc il y a toujours cette tonalité-là. Et en même temps, c'est partie des paradoxes des politiques publiques, comme dans toutes les politiques publiques. Il y a cette idée-là, et en même temps, il y a l'idée qu'il faut réunir tous les parents sans distinction et permettre de croiser les expériences entre parents et professionnels. Donc moi, cette idée-là m'intéressait plutôt pas mal. D'autant plus que, moi, je viens d'un monde où l'éducateur est quand même celui qui sait, et le travail social, c'est pas quand même le lieu où la confrontation des expertises, on n'est pas dans la logique de la confrontation des expertises, donc ça a amené un déplacement que je trouvais intéressant. Donc voilà, ma recherche, elle est partie de ce premier étonnement, de ces premiers constats. Du coup, je me suis engagé dès le master sur une recherche autour de ces politiques publiques de parentalité. Je vais vous présenter la manière dont s'est amorcé mon terrain. Je l'ai écrit dans le texte que tu citais tout à l'heure, mon terrain c'est construit comme la négociation d'une commande. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que pour pouvoir trouver un employeur pour faire mon doctorat, pour avoir un financement, du coup j'ai dû aller à la rencontre de cette association, produire un écrit pour présenter mon projet de recherche qui a été présenté au conseil d'administration. Et je suis aussi allé à la rencontre de l'institution que j'avais identifiée qui pouvait être à l'origine du financement de mon poste. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt un groupement d'institutions, c'est le comité départemental de soutien à la parentalité, donc, qui existe sur chaque département, qui réunit différentes institutions, le conseil départemental, la CAF, etc., et dont la CAF est le principal acteur. Donc voilà, je suis allé à la rencontre, j'ai présenté mon projet, et en faisant ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était pour moi déjà une première manière de formuler les objets sur lesquels je voulais travailler. C'était aussi une manière de formuler ce que je percevais des intérêts de l'organisation à pouvoir accueillir une recherche et à la financer. Et du coup, c'était aussi une formulation de l'articulation que je situais entre les intérêts de l'association et de l'institution et de notre côté mes objets de recherche. Du coup, en faisant ça, je me suis rendu compte que c'était une première manière en fait de dessiner une forme de commande. Alors, avec le sentiment un peu troublant d'être à la fois à écrire la commande et à chercher à y répondre. Au début j'étais un petit peu en difficulté par rapport à ça, d'autant plus que le fait que ça s'inscrive dans une convention industrielle de formation par la recherche. Qui est géré par une agence, la NRT, l'Agence nationale de recherche et technologie, qui a délégation du ministère de la Justice pour encadrer ces conventions. Donc en gros, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le ministère de la Recherche qui finance un doctorant pendant 3 ans à raison en gros de 5% du salaire, avec un salaire minimum fixé à 1500 euros. Enfin, et c'est un dispositif qui se construit entre le labo, donc le labo directeur de recherche, l'association, et l'ANRT, donc qui gère ces conventions, et le doctorant qui est au milieu, mais qui n'est signataire de aucune des choses qui s'écrit. Et donc cette cifre, elle a prolongé pour moi la démarche que j'avais vis-à-vis de l'association et de l'institution, donc cette démarche de production, de construction d'une commande, puisque pour la cifre, la recherche menée par le doctorant, elle vient répondre à une commande qui est formulée par l'entreprise. Même plus précisément, elle vient répondre à une commande du service recherche et développement d'une entreprise. Donc on est vraiment sur un modèle de l'entreprise qui a un service recherche et développement, qui développe déjà une recherche, qui a besoin d'un doctorant, qui passe une commande, et le doctorant répond à cette commande et essaye lui de faire entrer son objet de recherche dans cette commande-là. Donc l'ANRT dit même l'employeur n'est éligible à la cifre que si le sujet de recherche s'inscrit nettement dans son objet et son développement. Alors du coup, pour mettre en place une cifre dans un cadre associatif, en partant d'un modèle basé sur l'industrie et l'entreprise, bah, on est dans une obligation d'un travail de traduction important à faire. Et je me suis retrouvé, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la situation de formaliser, moi, la commande à laquelle j'allais répondre, avec donc, un côté un peu artificiel au début, et en même temps, quelque chose qui m'a paru intéressant, parce que ça a fonctionné pour moi comme un premier dispositif de mise à l'épreuve. C'est-à-dire que, en décrivant l'activité, je me suis retrouvé du coup en obligation de décrire l'activité de l'association, enfin en tout cas, moi je percevais de cette activité, en formulant le projet aussi, ce que je percevais du projet, des objectifs de l'association, et mon projet de recherche que j'ai articulé à un projet de développement, puisque du coup l'idée c'était de formuler une commande sous forme de projet de développement pour l'association. Du coup, en formulant ça crée un espèce de jeu d'aller-retour entre ce que moi je pouvais produire et ce qui pouvait être mis en discussion avec l'association. Et ça m'a permis d'être déjà dans une modalité de faire retour à l'association de ce que moi je construisais, c'est-à-dire avec la crainte de construire ma recherche moi tout seul et puis que l'association ne soit pas au courant. Là, ça a été déjà une première base pour ce mouvement-là. Ensuite, ce que ça a produit, c'est que ça a créé une place pour l'activité de recherche dans l'organisation, puisque c'est une association qui embauche des psychologues et des médiatrices familiales. Donc l'activité de recherche complètement absente et étrangère à cette organisation. Et du coup, bah, voilà, il y a un tas d'ajustements qui ont été nécessaires avec des choses très concrètes, hein, autour de combien de temps passer sur la recherche, puisque l'association s'est engagée dès le départ à ce que je puisse m'inscrire dans l'activité de l'association à mi-temps et en même temps être sur un temps qui est identifié thèse, où là je suis hors de l'association, donc soit ici en séminaire, soit chez moi, soit sur des lectures, et je suis payé à temps plein. Donc du coup, c'était une forme de prise de risque, hein, pour l'association, de ne pas être dans le contrôle, dans la maîtrise de ce qui se passait là. Donc elle a pris cet engagement, et en même temps, voilà, on sent que des fois c'est un peu compliqué pour la direction notamment d'accepter ça. Donc ça se fait avec d'entendre des remarques du style « Oh ben ça fait des semaines que tu n'avais pas vu alors que j'étais la semaine d'avant. Alors ta thèse avance. » C'est de l'inquiétude quand même, de la pression. Donc, et finalement, du coup, cette construction de la commande a permis donc de construire un cadre, hein, une référence commune entre l'association et moi. Donner donc une fonction à la recherche dans l'organisation, parce que du coup, le fait de penser la recherche comme une possibilité de développement avec les mots qui sont utilisés dans la convention, c'est développer une manière innovante d'intervenir. Donc du coup, ça permet aussi à l'association de donner du sens à cette recherche. Donc voilà, en gros, rapidement, comment ça s'est amorcé. Alors ensuite, pour décrire mon terrain, alors du coup, c'était drôle parce que en écrivant là pour cette intervention, Amandine avait envoyé cette proposition de carte postale. Et au départ, quand vous avez envoyé ça, moi j'étais très circonspect. Je me suis dit, carte postale de mon terrain. Alors, avec vraiment rien qui venait, je ne voyais pas du tout comment j'allais. Alors, moi, j'étais dans du texte, tout ça, comment j'allais répondre à ça. Et alors, je ne sais pas si c'est la proposition qui a fait émerger ça, mais à un moment donné, il y a une image qui m'est venue, donc celle que j'ai essayé de représenter sur la, ouais. Sur la, voilà, sur la,
je vais la carte. Circuler.
Oh, bah, tu peux, ouais. Oui. En fait, j'ai eu d'abord l'image de couche un peu sédimentaire, si on reconnaît aussi l'instant que tu disais, de quelque chose de plus géologique. Et en même temps, ça m'embêtait parce que l'idée que mon terrain, l'image de mon terrain en couche, il fallait que les couches soient en interaction les unes avec les autres. Donc ça marchait pas, qu'il y ait une dynamique qui était prise dans le temps. Et alors j'ai eu l'image de l'architecture de Dan. Et en dessous, il ne connaît rien. Donc je suis allé voir un petit peu ce que c'était que cette architecture de Dan, ou cet urbanisme de Dan. Et je me suis dit que ça pouvait être une métaphore qui fonctionne, enfin pour le moment, ben, ce que ça donne après, mais en tout cas dans l'idée que chaque dalle correspond plus ou moins à un groupe social ou à un monde social, avec à certains endroits des connexions entre les dalles, et ça décrit quand même pas mal le paysage dans lequel je suis. Puisque du coup, à l'origine, apparemment, c'est Léonard de Vinci qui avait imaginé la construction de villes utopiques comme ça. Il y avait l'idée de séparer, de différencier les circulations, mais il y avait aussi l'idée de séparer les groupes sociaux. On retrouve l'idée de ségrégation verticale dans cette urbanisme de dalle. Et là, moi, dans mon terrain, et on pourrait avoir une dalle qui est très éloignée des autres, très au-dessus, qui regroupe les institutions nationales, CNAF, etc. Une dalle en dessous qui réunit les institutions à l'échelle départementale, donc ce que je vous décrivais tout à l'heure, donc le CDSP, la CAF, le conseil départemental, qui viennent décliner les politiques nationales et décider des orientations en fonction des spécificités du département, des spécificités territoriales. Puis en dessous, une dalle qui réunit les opérateurs qui sont donc sur mon terrain à la fois des associations et des collectivités territoriales, à la fois des bénévoles et des professionnels, qui eux produisent des actions de soutien à la parentalité et sont en lien avec les parents. Et puis une dalle tout en dessous qui réunit les bénéficiaires, donc les parents, avec des jeux de chevauchement. Enfin, je pense qu'il y a des institutions qui sont sur une seule dalle, mais qui peuvent quand même déborder un peu par le bas pour établir des connexions. Voilà. Donc voilà, enfin, du coup. Cette image qui fonctionne pour moi, je ne sais pas trop où on y est. Avec l'idée aussi que chaque dalle est généralement invisible au regard des acteurs des autres dalles. On a des parents qui s'inscrivent dans des actions et dont ils ne savent pas que ce sont des actions de soutien à la parentalité. Des institutions qui ne voient jamais de parents. Des professionnels qui répondent à des appels à projets sans connaître l'organisation et les orientations des politiques publiques de parentalité. Et moi, l'association qui m'emploie, on pourrait dire, pour essayer de la situer dans ce schéma, qu'elle est à cheval entre la dalle des institutions et celle des opérateurs, puisqu'elle produit des actions de soutien à la parentalité, donc elle est identifiée comme un opérateur de soutien à la parentalité. Et en même temps, elle est souvent invitée par les institutions à participer à l'élaboration des schémas directeurs, etc. Donc elle est dans cette position-là, mais par contre, elle n'est pas en lien avec des parents au sens de contribution des parents à son action. Quand elle les rencontre, c'est uniquement dans une position de prestataire. Voilà, donc l'association qui m'emploie donc depuis 2012 s'est vu confier une mission d'animation départementale de parentalité. Donc ça, c'est le service. Donc elle a développé un service spécial pour être dans cette animation. Donc animation et coordination des acteurs du soutien à la parentalité et des réseaux parentalité quand ils agissent sur les territoires. Donc c'est le service dans lequel je travaille avec deux autres collègues. Voilà. Donc je voulais vous présenter une expérimentation qui est... je suis parti là-dessus à partir d'une question qu'on s'était posée au sein du groupe de doctorants du vendredi. On s'était posé une question qu'on a reformulée après de par des échanges de mails, mais en gros, qu'est-ce qu'on fabrique comme dispositif qui permet en même temps de faire émerger le terrain et de produire une forme de transformation sociale, donc amener les personnes à se décaler, à apprendre, à développer du commun, à faire circuler des savoir-faire, à se reformer, etc. On a été sur cette question et ça a guidé ma réflexion. Donc dans le cadre de la mission d'animation départementale, l'association donc pour laquelle je travaille doit organiser chaque année un événement, une journée départementale de parentalité, donc qui doit réunir l'ensemble des opérateurs du soutien à la parentalité autour d'une question. Et moi, dans le cadre de ma recherche, j'ai vu cette journée parentalité plutôt comme une opportunité de faire émerger le terrain. Donc là aussi, ça rejoint les questions de David Jamar qui est autour de qu'est-ce qui fait terrain, voilà, est-ce que à partir du moment où on est dans une organisation, est-ce que ça c'est le terrain. Donc moi je me dis que ce que je vous ai décrit plus haut, c'est plutôt une espèce de cadre dans lequel je m'inscris, et après avec la question de qu'est-ce qui vient faire terrain. Donc cet objet journée parentalité, journée départementale, alors nous on l'appelle JD, du coup, comme vous écrivez comme ça. Donc c'est un objet qui est clairement construit du lieu de l'institution, puisque c'est une commande institutionnelle, donc c'est le CDSP dont vous parlez tout à l'heure qui passe commande à l'association pour organiser cette journée. Les objectifs sont fixés par l'institution, c'est la déclinaison des orientations nationales. Et l'idée, c'est de donner plus de visibilité aux actions du soutien à la parentalité, mettre en réseau les acteurs, etc. L'évaluation qui en est faite, c'est en général en fonction de critères institutionnels, c'est la mesure de la fréquentation, le nombre de personnes présentes, le nom du sociologue ou de la personnalité qui est invité ce jour-là, parce que c'est aussi l'occasion d'une vitrine pour les dispositifs et les institutions. Et ça constitue clairement une tribune pour les représentants locaux. Chaque année, c'est impossible d'échapper à la sempiternelle tournelle des discours d'ouverture de la journée. Donc on a le discours du directeur de la CAF, du maire, du directeur de l'action sociale du conseil départemental, les contraintes du service du protocole de la mairie à gérer. J'ai découvert à cette occasion-là qu'il y a un service du protocole dans la mairie, que le maire n'arrivait pas comme ça. Qu'on ne mettait pas n'importe quelle couleur de nappe sur la table. C'est comme pour les bêtes. Là, je me suis retrouvé quand même sur une mairie plutôt de droite où il t'interdit de mettre des nappes rouges.
Ça les ressemble à la famille, hein, c'est cool.
Donc du coup, moi, quand je suis arrivé sur travailler dans ce service, la journée départementale donc se déroulait d'une manière assez classique. Il y avait donc les discours dont je vous parlais, une conférence sur une question de parentalité et sur les questions de la famille, en général par un sociologue, un temps de témoignage par des opérateurs ou des parents et un forum que les opérateurs puissent présenter leurs actions. Donc c'était uniquement le service d'animation départementale qui construisait cette journée. Il n'y avait pas vraiment de thème. La journée était plutôt organisée à partir de la tête d'affiche, comme disait la direction. La direction disait, pour la journée, il nous faut une tête d'affiche, il faut arriver à faire venir les professionnels, il faut arriver à les intéresser, enfin, comme ça. Donc on a eu Gérard Néron, Olivier Tour. Des gens intéressants. En tout cas, c'était la journée était pensée comme ça. Et la seule catégorie d'acteurs qui participaient à cette journée était évidemment les professionnels, puisque les institutionnels, les élus partaient une fois les discours finis et que les parents en étaient absents. Donc l'enjeu pour moi, ça a été de comment transformer un objet institutionnel en dispositif de recherche. Donc, je me suis, du coup, pour cette année-là, donc la journée qui va avoir lieu en octobre, donc c'est, voilà, là, je vous parle de quelque chose qui est en cours de construction, donc c'est pas abouti, il y a une partie du travail qui est encore sous forme d'hypothèse et en même temps, c'est en train de se faire. Pour la construire, donc, bah, du coup, moi, je me suis appuyé sur ce qui avait été négocié dans le cadre de la commande avec, avec l'association, dans le cadre de la CIFRE, puisque j'avais proposé que la journée départementale soit pour moi une modalité privilégiée pour développer ma recherche. Donc ça avait été entériné, ça a été validé. Donc je me suis emparé du coup de l'objet journée départementale. Et pour essayer de faire des propositions différentes, donc comprises dans le discours de la CIFRE, dispositif innovant. C'est dit en amont, comme ça on est sûr que ce sera innovant. Et du coup, c'est aussi pour moi la possibilité d'utiliser ma fonction d'animateur chercheur, puisque ça, c'est aussi quelque chose que j'ai omis de dire, mais c'est une formulation qu'avait proposée la direction quand on s'est rencontré la première fois avec Pascal pour discuter de comment la recherche allait prendre place dans l'organisation. La directrice a proposé que j'ai une fonction d'animateur chercheur. Et du coup, c'était intéressant parce que ça venait vraiment coupler à la fois l'intervention et à la fois la dimension recherche. Donc, vraiment asseoir l'idée de la recherche-action. Et en même temps, ça me faisait exister dans l'organisation. Et du coup, c'est inscrit sur mon contrat de travail. Donc, travail, je suis animateur-chercheur. Et puis, dans les outils de gestion, notamment des heures, j'ai une ligne thèse. Donc, voilà, l'idée, ça a été d'amener un changement de logique et de construire la journée départementale différemment, partir des acteurs locaux, des professionnels et des parents, en faisant l'hypothèse que c'est à partir de leur rencontre qu'on pourra donner un contenu à la journée départementale. Donc c'est faire l'hypothèse que le débat qu'on va pouvoir organiser entre les différents acteurs permettra à la fois de problématiser une question, nous, on n'a pas pu trop problématiser de cette manière-là, de notre lieu à nous, au clac-clac, on n'aurait pas réussi à faire non plus. Et aussi permettre, par ce débat-là, d'amener des éléments de compréhension des phénomènes, des questions que rencontrent les acteurs et des propositions de nouvelles manières de faire. Donc, voilà, l'idée, c'est celle-là. Alors, du coup, moi, dans ma posture d'animateur-chercheur, je me retrouve à être tout le temps obligé de penser en parallèle les intérêts de l'association et mes objets de recherche. Les intérêts de l'association et aussi ses limites, parce que je vois bien que selon ce que je propose, c'est pas simple pour mes collègues. Mes collègues trouvent que j'ai tendance à rajouter beaucoup de complications à une affaire qui est déjà pas très simple. Et du coup, il faut que je sois vigilant à les aider à supporter de ne pas savoir à l'avance, de ne pas savoir ce que va être le contenu de la journée départementale, puisqu'il y a quand même un enjeu pour l'association et pour le service, à ce que cette journée elle se passe bien. Donc on a envie de savoir ce qui va s'y passer, on colle vite des contenus. Donc là, voilà, l'idée c'est d'embarquer aussi les collègues pour qu'elles se prennent à ce jeu-là et qu'on puisse supporter de ne pas agir avant que les acteurs aient pu se rencontrer et aient pu faire des propositions, de ne pas préconstruire les choses. Et du coup, ça me faisait penser à ce que disait Pascal dans son dernier bouquin autour de comment on peut réunir les conditions pour que l'institution supporte une politique de l'expérimentation. Dans l'idée que la politique de l'expérimentation qui agit sur le mode de l'indétermination. Et voilà, moi je me retrouve vraiment dans ces idées-là. Donc il y a aussi une dimension de prendre soin, enfin, voilà, des collègues, de l'association, essayer de proposer des choses différentes, mais voilà. Donc j'ai l'impression d'être à la fois en dissociation, à penser toujours deux choses en même temps, et en même temps en conjugaison d'intérêts différents. Et moi, du côté de la recherche, je fais le pari que de pas savoir ce que ce dispositif va donner, peut-être que ça va rien donner du tout. Mais par contre, j'ai l'intuition, la croyance peut-être, pas très scientifique, mais que si on arrive à permettre aux personnes de se rencontrer, de toute façon, ça va produire quelque chose. Quoi. Même si la JD, au final, ne fonctionne pas, le processus en amont va permettre des nouvelles rencontres, des nouveaux agencements et des déplacements. Alors concrètement, du coup, les modalités pour construire ce dispositif, ça a été l'idée déjà de proposer un thème pour permettre aux gens de se rencontrer. Donc on a proposé le thème des relations parents-école. Alors avec là aussi tout un débat avec l'équipe, c'est trop polémique, et en même temps, l'idée c'est que les gens viennent aient envie de venir se parler à cet endroit-là. Avec l'objectif de proposer des temps de rencontre aux différents acteurs à partir de ce thème-là, et puis d'observer comment le débat évolue. L'idée, c'est de construire un cadre, d'intéresser les gens pour qu'ils y viennent, d'animer les choses pour qu'un débat puisse avoir lieu, et puis de voir ce que les échanges permettent de faire émerger, la manière dont ça modifie aussi les façons de se présenter, puisque évidemment, quand on essaye de faire venir un élu ou des professionnels et des parents, il y a des effets d'intimidation. Les personnes se présentent plus facilement et sur un certain mode quand elles sont élues que quand elles sont parents. Donc voir ce que ça permet de déplacer de déplacer les rapports de pouvoir. Et du coup, l'idée, pour reprendre l'image d'Edal, c'est que le dispositif qu'on construit là permette de connecter les dalles entre elles. Et face à un moment, en tout cas, ou un espace qui fonctionne sur un mode conflictuel dans la confrontation des expertises des acteurs. Et pour construire ça, du coup, l'idée, c'est de... je vais à la rencontre des acteurs sur leurs dalles respectives. Je vais les rencontrer là où elles sont, les groupes de parents quand ils existent, alors soit des groupes de parents qui sont déjà constitués parce qu'ils sont bénéficiaires des actions de soutien à la parentalité. Donc là, je contacte les opérateurs et je vais à la rencontre des parents, je leur présente le projet, je commence à animer déjà un temps de discussion en leur disant on va pouvoir poursuivre cette discussion ailleurs et avec d'autres personnes. Rencontrer les groupes de parents quand ce sont des groupes qui sont auto-constitués. Et puis je fais pareil avec les opérateurs et avec les institutions. Et en écrivant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des passeurs. Il y a des acteurs qui sont à cheval, qui naviguent entre les dalles, qui sont soit à cheval sur deux dalles, soit qui passent de l'une à l'autre. Et par exemple, il y a des parents qui ont monté une association et qui du coup sont reconnus par les professionnels comme présidents d'association, du coup ils accèdent à sortent du statut de parent, alors que ils sont toujours parents et des fois présidents d'assaut de parents. Il y a une femme aussi sur un quartier qui a décidé de réunir, qui est à la tête d'une association, des femmes qui se réunissent entre elles. Alors elles portent tout le foulard, elles sont toutes de confession musulmane. Et elles se réunissent pour partager un temps de jeu avec leurs enfants. Il n'y a pas de professionnels. Et elles interpellent la CAF pour bénéficier de financement, de financement de la CAF au titre du soutien à la parentalité. Et c'est des constructions qui sont intéressantes parce que ça vient grincer du côté de la CAF. C'est du communautarisme, on ne va pas financer du communautarisme, donc voilà, on voit bien que ça vient interpeller l'institution, et en même temps, cette personne, elle ose quoi, aller à la rencontre des institutions. Il y a une éduque à la retraite, par exemple, aussi, qui habite un quartier bourgeois, qui se retrouve sollicitée par une association qui risque de s'arrêter de fonctionner si une personne ne prend pas la présidence. Donc elle prend la présidence de cette association et elle se retrouve à organiser avec 80 femmes qui sont adhérentes, qui sont toutes habitantes des quartiers politiques de la ville et qui sont en situation de précarité en étant hyper investies dans la mise en place d'actions. Et voilà, ça fait des rencontres. Voilà, et ces personnes-là, on voit qu'elles peuvent passer d'une dalle à l'autre, elles peuvent être identifiées par les institutions et en même temps être à la rencontre des parents. Et du coup, je me disais qu'il y avait l'acteur bénévole dans ces différents types d'acteurs qu'il y a sur les dalles, qu'il faudrait que je creuse, parce que il y a une fonction de l'acteur bénévole qui peut être à la fois parent, à la fois considéré par les institutions, représentant d'associations quand il est au conseil d'administration, quasi professionnel quand il intervient lui-même auprès de parents, même si c'est à titre bénévole. Il y a peut-être un truc à tisser de ce côté-là. Et moi, du coup, dans ma prise de contact avec ces personnes, je pense qu'il faut que j'arrive à identifier ces passeurs.
Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Quand tu as parlé de ton association, là, de maires, ce sont toutes des maires musulmanes, il n'y a pas de maires
Elles sont toutes de confession musulmane.
Toutes, ouais. Et comment ça se fait, ça?
Je sais pas. Je les rencontre mercredi prochain. Je les rencontre mercredi prochain.
Non, mais je pose la question, ça fait récemment, dans la mesure où effectivement d'autres personnes pourraient. Comment ça s'est fait, ça?
Je sais pas, mais Sora,
elles sont copines.
Je pense qu'il y a des liens d'affinité, ça se construit essentiellement sur un mode affinitaire. Non, sur un mode affinitaire, elles habitent le C'est des questions de famille, c'est des questions de relations qui sont déjà là, qui font qu'elles se retrouvent dans cette association. Et du coup, juste je continue parce qu'après j'ai peur, je suis déjà là. L'idée c'est aussi de faire ce travail auprès des institutions, d'avoir la même attention que celle qu'on a en direction des professionnels et des parents, de l'avoir au niveau des institutions. Donc on a lancé une réunion où on invite la CAF, le délégué du préfet, l'éducation nationale, les principaux de collèges, professeurs de lycée, la mairie, etc. L'idée là, c'est de les embarquer aussi dans la démarche, de jouer aussi sur un effet de validation, c'est-à-dire comme il y a un certain nombre d'institutions qui sont déjà au courant, qui ont déjà validé, le fait de les réunir toutes. L'idée, c'est de leur présenter la démarche, de la valider, et aussi de les impliquer dans le sens de... je me disais, c'est presque retourner le poncif qu'on a dans le travail social, où souvent on dit il faut rendre les usagers acteurs de leur parcours et de leur projet. Là, c'est l'idée de rendre les institutions actrices des projets qu'elles financent, et qu'elles financent souvent sans même le savoir. Du coup, c'est aussi l'idée de reconnecter les institutions avec les dispositifs qu'elles mettent en place. Parce que du coup, nous, on est un dispositif qui est financé par les institutions, mais des fois, elles ne savent pas trop ce qu'on fait. Et du coup, c'est aussi de connecter la dalle institution avec la dalle des opérateurs. Et de lancer aussi le débat entre elles. Quoi. C'est-à-dire, on veut essayer de questionner la raison pour laquelle on se rend compte qu'au niveau national, toutes les préconisations qui sont faites donc autour du thème, hein, puisque le thème c'est relations parents-école. Donc le ministère de l'Éducation nationale fait un tas de préconisations pour que soient mises en place des dispositifs qui permettent aux parents de prendre place dans les établissements scolaires, de gérer des espaces dans les collèges, etc. Et rien ne se fait dans les faits, dans les établissements. Donc du coup, c'est de les amener aussi à débattre de ça. Donc du coup, en conclusion, je me disais que c'était aussi une formulation de David Jamar, je crois. Je ne cite que David Jamar.
Il est pour les autres.
Il est pour les autres. Que voilà, faire de la recherche, c'est aussi peut-être une manière de participer à une redéfinition des problèmes pour les concernés et par les concernés. Et je me dis que ce qui m'intéresse, moi, dans ce terrain, après une année et demie de mise en place de la recherche dans l'association, de négociation, etc., là, j'ai vraiment l'impression de pouvoir commencer à développer quelque chose qui fait terrain pour moi. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est... du coup, je te cite aussi, Pascal. C'est la portée instituante d'une politique de l'expérimentation. C'est cette idée qu'effectivement on va pouvoir déplacer les choses en mettant en place cette politique de l'expérimentation à partir... Pascal je disais ça aussi dans ce que tu décris dans ton livre, on voit que tu penses, toi, cette politique de l'expérimentation à partir de collectifs autonomes, autogérés, auto-institués, collectifs d'artistes en co-création, réseaux activistes, etc. Et moi, j'ai l'impression de... Du coup, à la différence de ce type de collectif-là, j'ai l'impression, moi, de me saisir d'objets qui sont initiés par l'institution, qui n'émergent pas du tout à l'initiative des premiers concernés, qui n'émergent pas du tout à l'initiative des parents. Donc on n'est pas sur l'idée que ce seraient des parents qui souhaiteraient prendre part au débat, exprimer leur manière de faire, de voir les choses, de faire usage, etc. Mais plutôt construire une expérimentation, donc en partant du lieu de l'institution, pour structurer un cadre qui réunit un ensemble de conditions nécessaires que l'institution, justement, supporte cette politique de l'expérimentation. Donc, dans l'idée que, à partir des objets de l'institution, pouvoir embarquer l'institution, embarquer les agents de la CAF. Alors, ça se passe toujours à partir de personnes. Hein. C'est, la CAF met en place des agents de développement territoriaux qui sont en lien avec les opérateurs avec lesquels je suis en lien. Je vois bien que quand je peux les embarquer dans la démarche, il y a quelque chose qui se construit d'une possibilité d'attendre, par exemple, qu'un réseau parentalité ne se construise pas vite en réunissant les professionnels et hop, ça y est, c'est fait. Là, quand j'essaye de proposer, moi, est-ce qu'on essaye d'abord de construire un réseau à partir des parents, à partir des questions des parents, et que ce soit eux qui fassent réseau, que ce soit après les parents qui invitent les professionnels. Embarqué dans cette idée-là, il y a quelque chose de l'institution qui peut se mettre, qui peut penser la temporalité différemment, alors qu'on est plutôt dans une logique de court terme en général. Je me disais que la parentalité aujourd'hui n'est pas un commun dont les différents acteurs souhaitent s'emparer. Par contre, je me disais qu'en prenant la politique publique au mot, quand elle affirme, malgré toutes les contradictions, mais quand la politique publique de parentalité affirme que on peut construire des espaces qui permettent de rencontrer, où les parents professionnels et élus puissent se rencontrer, le fait de prendre la politique au mot en disant c'est dit, c'est écrit, allons-y et voyons ce que ça donne, ça peut peut-être constituer du coup une forme de manière d'ouvrir des possibles et d'être dans l'expérimentation. Alors, je ne sais pas si ça peut devenir une méthode, mais en tout cas, c'est une méthode dont la fera projeter en tête de la cifre. Voilà, propriété intellectuelle. Mais en tout cas, pour que cette politique de l'expérimentation puisse opérer, il paraît quand même indispensable de conserver, de rester focalisé sur le caractère situé des expériences. Donc, caractère situé au sens où les expériences s'ancrent dans une communauté et ça rime à ce que les personnes concernées ont appris à faire et à voir ensemble. C'est aussi une citation de Pascal. Donc, l'idée, c'est d'avancer sur un mode micrologique que les expériences situées pourront. C'est en avançant sur ce mode micrologique que les expériences pourront s'emparer d'une écriture macrologique. Et j'aimais bien cette idée que proposait Pascal où partir des expériences en micro, ça permet de repérer ce qu'il y a de macro dans l'expérience singulière. Et que c'est peut-être à cette condition qu'on pourra procéder à une mise en mouvement pour prendre de court les emprises institutionnelles, les déborder et les contourner. Alors du coup, ça revient à cette question du débordement, non déborder l'institution. Et toujours dans l'idée de pouvoir contribuer à la définition des problèmes publics à partir d'un ensemble de pratiques et de valeurs, de normes qui sont mises en œuvre pour gérer une ressource. En gros, constituer des micro-espaces publics à partir de la vision de chacun pour faciliter à la fois ce débordement de l'institution et peut-être après aussi une transmission des expériences en mode latéral et en dissémination et pas en intergénéralité. là-dessus. Une idée proposée par Pascal qui...
Il y a les concepts qui tombent.
Hein?
Les concepts tombent.
Salut, t'envoies.
T'envoies.
Mais alors qu'il faut mutualiser les ressources.
Grave,
vas-y, répète parce que je peux.
L'idée, c'est de partir d'expériences situées et qui sont vécues en micro. Donc là, dans l'expérimentation, c'est vraiment pas... pas quand on réunit les parents, les professionnels et les institutions, l'idée, c'est... le premier atelier qu'on a animé, on leur a proposé de raconter une expérience qu'ils avaient... Enfin, de raconter une expérience d'enfant, d'élèves, quand eux, quand chacun était élève. Ce qui était intéressant, c'est que à la fois les professionnels et les parents ont pu parler de comment eux avaient vécu leur scolarité quand ils étaient gamins. Et du coup, c'est cette idée déjà de pouvoir échanger sur quelque chose qu'on a en commun et de ne pas se retrouver confronté dans un jeu de représentation de l'institution ou de l'association, etc. Mais partir de ce que chacun a pu vivre. Et l'idée, c'est de poursuivre cette démarche-là en permettant aux expériences singulières chacune des personnes qu'on va réunir. Et l'hypothèse, c'est qu'à partir de ces vécus, d'expériences, de ces récits de chacun, on va retrouver des questions effectivement plus macro et on va pouvoir problématiser un certain nombre de choses et du coup interpeller la politique publique. Et si ça fonctionne, enfin, l'idée, c'est que ça monte en latéralité.
Et que tu déposes le brevet.
Et du coup, oui, je me disais juste pour conclure, des fois, je ne sais plus trop si je suis... j'ai dû... Enfin, c'est de la recherche-action, c'est de l'ingénierie sociale ou de l'expérimentation politique. Si, il y a vraiment...